Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, 467e émission de Plume et Pinceau, la dernière de l'année 2023 et peut-être même la première de l'année 2024. C'est l'émission normalement de jonction, de transition, de passage, peut-être de résolution, allez savoir. Bon, on verra bien. En tout cas, on va faire un voyage temporel dans cette émission parce qu'on va aller retrouver deux invités que nous avons eus à Quai des Bulles, session 2023. C'était un vendredi et nous recevions deux individus responsables de Bombe X, premier épisode, La Terre en question. Alors, il y a toute une équipe, il y a Alexis Santenac notamment, il y a Brice Cossu, Johan Guillot, coloriste, qui sont là. Mais nous recevions, on va dire, un peu vraiment le pôle central, à savoir le scénariste Vincent Brugueas et Ronan Toulouat, qui a fait une partie des dessins. Comme il vous l'expliquera dans cette interview. On les recevait pour un excellent album de science-fiction paru chez Glénat, qui justement lui aussi joue sur l'espace et le temps, comme cette émission. On va suivre en fait les aventures de plusieurs personnages. Disons que celui qui va nous introduire dans cette histoire, c'est Paul, c'est un naufragé temporel. Il a échoué un peu au milieu de nulle part, il s'est fait happer par un orage temporel. Ça, c'est vraiment l'élément central de cet album. Il existe des orages temporels qui viennent, qui apparaissent subitement et qui attrapent à un moment de l'histoire et dans un lieu sur Terre, emmenant objets, animaux et humains, et pouf, et les projettent, on ne sait pas trop où. C'est un peu ça l'enjeu de ce premier album de découverte. Donc Paul, lui a été happé, il était astronaute, membre de l'équipage de l'ISS, et puis depuis le crash de sa station finalement, hein, puisqu'il a été happé dans sa station, il vit au milieu de plusieurs milliers d'autres humains pris à un moment de l'histoire, pris dans un endroit de notre bonne vieille planète. Il a notamment un compagnon qui s'appelle Béhémon, un chevalier du XIIIe siècle. Et on va aller découvrir toute cette petite communauté, tentant de comprendre ce qui lui arrive, où elle est, et puis tentant de survivre parce que le lieu est un peu vide. Et pour survivre, on compte un peu sur les orages temporels, on les guette avec impatience parce qu'ils amènent des choses de la Terre et parfois il y a des ressources. On se débrouille, on survit, voilà tout ce qu'on découvre. Nos deux invités ne sont pas des amateurs, Ronan Toulouat, Vincent Brugueas, vraiment c'est un duo qui existe depuis un bon moment, c'est les auteurs des Rois de Ribaud, de la République du Crâne, ils ont fait un Conan le Cimérien. Vraiment, ils savent vous raconter des histoires et des grandes aventures, surtout. Voilà une nouvelle série donc de SF avec un petit parfum survivaliste qui promet. C'est paru chez Glénat, mais nous, on va les retrouver. On est à Saint-Malo, un vendredi, pendant le festival Quai des Bulles. Avant ça, un petit interlude musical, un morceau pour Pierre, lui, amateur de Joy Division, comme moi aussi, amateur de bon vin, un Macon 2003 quand même, c'est quelque chose. Joy Division, un petit morceau pour toi, Pierre-Louis.
Flashing cars are crashing, getting frequent now. got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.
Kennebulle 2023, et nous recevons pour terminer l'après-midi messieurs Vincent Brujas, j'espère que je le
prononce
bien.
Tout à fait, c'est Brujas.
Ouf. Et monsieur Ronan Toulouat.
Oui, impeccable, aussi. C'est ça, c'est bien prononcé.
Ça c'est fait.
Ça c'est fait.
À vous, mon bon Erwan.
On est très content de vous rencontrer parce que ça fait longtemps qu'on vous suit. Hein. D'un classicisme affligeant, mais qui pour nous parlons de BD, mais qui ne faisons pas de la bande dessinée. Nous passionne, c'est comment vous avez décidé justement de vous livrer corps et âme au 9e art, quoi.
Ben, c'est un peu ma faute.
Dites-nous tout.
Et en fait, moi j'ai comme Vincent, enfin, on a grandi entouré de bandes dessinées, mais moi j'ai le dessin est quelque chose que j'ai chevillé au corps depuis tout petit, et c'est assez naturel que j'y suis venu à en faire de mon côté adolescent, en fait. Et je passe mon bac, faire des petites histoires que j'aboutissais jamais, en fait, que j'arrivais jamais à finir parce que je savais au fond de moi que ce que je posais en termes d'histoire racontait pas grand chose, et puis j'arrivais pas à structurer mes récits. Et puis un jour, il y a ma petite sœur qui vient me voir et puis qui me dit: mais attends, Ronan, au lycée, hein, j'ai un copain, il écrit des histoires. Alors je dis: ouais, bon. On va bien voir, mais passe-moi son mail. Donc on est mis en contact avec Vincent à ce moment-là, et il m'envoie ce qu'il écrit. Et puis là, moi, je dis: mais c'est exactement ce que j'ai envie de dessiner, c'est absolument génial. Et surtout qu'on se rend compte en échangeant des mails qu'on a les mêmes références et les mêmes envies surtout. Donc moi, je fais des dessins de ce qu'il écrit, et je viens le voir au lycée parce qu'il était en terminale à ce moment-là avec les dessins. Et...
Ah bah je vois ses dessins, il les a extirpés de ma tête, quoi. C'était exactement ce que j'avais en tête. J'étais pas très regardant à l'époque.
Non, c'est vrai.
Et toi non plus d'ailleurs.
Et c'est là que vous avez décidé de vous marier, non?
Exactement, c'est à peu près ça. En fait, moi j'avais la vocation d'être écrivain. J'adorais l'histoire, je voulais être prof d'histoire, en même temps je voulais écrire des trucs, mais j'allais jamais très loin. La flemme, le fait d'être tout seul, enfin dans mon coin. Et à partir du moment où j'ai rencontré Ronan, j'ai décidé: bon, on va faire de la BD. Voilà, je vais devenir scénariste de bande dessinée, quoi. Et en effet, c'est quelque chose c'est un média qui me convient beaucoup mieux parce que je suis à l'aise dedans. Puis il y a un partenariat tout le temps. Et c'est là qu'a commencé une longue aventure pour se faire éditer et puis après pour monter en grade, on va dire. Et puis arriver là où on est aujourd'hui. Alors, on a mis 5 ans à se faire éditer.
Ouais,
5 ans à se faire éditer.
Ouais, 5 ans, ouais.
Et en gros, parce que pour la monde de la BD, on est ensemble depuis 13 ans. Mais en fait, on bosse ensemble depuis 20 ans.
20 ans.
Ouais, c'est marrant, je vous disais, ils ont paraît jeunes, ça fait déjà un vieux couple, presque plus vieux que le nôtre. Non, quand même pas, Erwan.
J'ai l'impression que si.
Non, 13 ans, ils disent. Non,
20 ans, 20 ans qu'on se connaît. Mais 13 ans, édité,
c'est
en fait.
C'est un plus vieux couple que nous, et pourtant, ils sont bien plus jeunes. Relativité du temps, Aurélie et oui. Albert.
vous parliez de références communes, vous aviez quelques...
On aimait les mêmes films de merde. Oui, non, mais on avait les mêmes références de pop... les films d'époque, enfin les films de l'époque, peut-être pas des films.
Ouais, alors on avait une grosse base de commune de voilà de films d'action, de quelques
de
séries
lecture
également,
aussi.
De mais beaucoup de lectures.
De ouais, l'univers ouais. de Warhammer 40 000, de Game of Thrones,
absolument,
par exemple,
absolument.
Qui nous guide vachement
et qui nous tient toujours à cœur. Plus d'un titre.
Et ce qui fait, alors après par contre. Ça, on avait ça en commun, on a découvert qu'on avait ça en commun, mais on a fini par la construire ensemble. Parce que pendant ces 5 années, on a essayé de se faire éditer, on était souvent ensemble, on allait au cinéma ensemble, on était potes quoi. Donc on a construit cette culture ensemble, on lisait les BD ensemble, on disait ah, t'as lu ça? Oui, ça c'est pas terrible, ça c'est bien, ça c'est pas bien.
Mais on avait aussi une même culture de bande dessinée
en plus.
Assez commune, c'est-à-dire que de classiques, de bande dessinée classique, soit les Barbes Rouges, les Bugdani,
les Blueberry.
Certaines BD historiques, les Blueberry. Ça, on avait toute cette base en commun en fait.
On voulait la même chose.
Et il se trouve que Vincent continue aussi à lire de la bande dessinée, moi aussi énormément, et en fait là aussi on a commencé à se partager ça. Donc nous on s'est aussi fantasmé à cette époque-là dans des collections comme Série B chez Delcourt ou voilà, qui à l'époque c'était un peu le début des années 2000, c'était l'âge d'or de tout ça. Donc oui, nous ça nous est trippé quoi.
Carmen McCallum et tout voilà. Ça là.
Exactement, ouais, exactement.
Fred Duval.
Ou même quand Dorisson est sorti, on voulait être le Dorisson parce que il sort le Troisième Testament. Oh, on veut être eux, voilà.
Donc ça nous guidait quoi. Et puis moi j'avais découvert en 2003 le travail de Mathieu Loffray et de Denis Bajram. Donc c'était voilà, c'était de la BD telle que je voulais aussi faire en fait dans ce style-là de l'aventure de la SF, quelque chose qui claque quoi. Donc c'était fourmillait quoi.
Vous nous avez proposé plein de séries hein, en tant que lecteur. C'est vraiment on commence à Bloc 109 et puis après ça se multiplie, c'est le Roi des Ribauds, etc. Et c'est vraiment à chaque fois vous nous offrez de l'aventure et des BD de genre. En fait,
c'est,
on peut vous coller cette appellation.
Mais on l'assume pleinement. Et puis, au contraire, je pense qu'on la revendique en fait, d'emmener les gens dans un ailleurs et de les faire kiffer en fait, tout simplement.
En espérant qu'il y ait toujours la petite touche d'originalité qui montre que c'est nous, quoi. Que c'est pas la BD de genre de n'importe qui. Enfin, c'est le seul truc sur lequel on attache un peu de l'importance, c'est de se dire à chaque fois on touche un petit peu, soit à côté, soit enfin à côté, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, on a toujours un petit truc en plus. Voilà, la touche brûle-ouette, comme on dit.
20 watts.
Ou 20 watts. Bah, oui, c'est vrai, on avait fait
ça. C'est toujours été là depuis le début. Enfin, Bloc 109, c'était une uchronie. Il y avait deux dictatures. À chaque fois, il y a un angle, effectivement.
L'angle, c'est important, l'angle. Ouais.
C'est très important, l'angle. Alors, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour un album de science-fiction.
Oui.
Paru dans une collection, ma foi, qui se livre beaucoup à ce genre de science-fiction, Comics Bureau. Ah, chapeauté par Monsieur Vatine, c'est pas rien.
Qui était, parce que maintenant.
C'est vrai que c'est lui qui l'avait lancé. Bon, voilà, le Comics Bureau a eu ses aléas et ses aventures internes. Ça s'appelle Bombix. Une nouvelle
rien
étape.
Rien
une nouvelle...
avec l'insecte, le Bombix.
Non, absolument rien. ça part chez Glénat et une nouvelle étape donc, dans votre collaboration. Alors là, cette fois, vous êtes 4.
Si ouais, on pourrait même dire qu'on est 5, voire 6, suivant les mauvais jours.
C'est ça.
En gros, l'idée d'origine, c'est Olivier Steinfasser, qui est donc le patron de Comics Bureau, qui connaît bien et apprécie de travailler avec Alexis Santenac. Alexis Santenac, qui est auteur de bande dessinée, qui a fait pas mal de choses, notamment qui a participé au Goldorak. Et donc ces deux énergumènes aiment certaines choses, ont des références en commun comme nous, et en moment l'idée d'un pitch, enfin pas d'un pitch justement, mais d'un concept graphique, et en gros ils ont besoin d'un scénariste pour rendre ça crédible ou en faire une histoire. Et ils pensent tous les deux au même scénariste en même temps, sans se concerter, c'est moi. Donc je suis assez content, je suis assez fier. Ils m'appellent, c'est pendant le Covid, pendant le confinement, je me souviens. Donc il y a une date vraiment, c'était en avril 2020. Et Alexis m'appelle, il dit ça t'intéresse? Je dis oui carrément, bah écoute, Olivier va t'appeler. Olivier met un peu de temps à m'appeler, parce que Olivier c'est un diesel. Mais l'avantage c'est que vu qu'il met du temps à m'appeler, je réfléchis. Et quand il m'appelle, j'ai une idée. Je sais ce que je veux raconter. Moi, autant les véhicules, ça m'intéressait pas, autant les gens. Le côté social du truc m'intéressait. Et donc, j'ai trouvé une histoire pour pouvoir mélanger des gens de différentes époques. Et ça leur a plu. Et là, il a fallu trouver une équipe pour dessiner. Et on a appelé des copains. Donc, Alexis, qui connaît très bien Brice Cossu, Johan Guillot, avec qui ils avaient bossé sur encore le Goldorak. Moi, Ronan, je pouvais pas te dire. Voilà. Et surtout, c'est qu'on se connaissait tous via.
Il se trouve qu'avec tous les gars, là, on est en atelier virtuel. Un atelier virtuel, c'est quoi? C'est un atelier, c'est comme un atelier en vrai, sauf qu'on se connecte tous à une même plateforme d'échange et de partage, en vocal principalement, même si on peut mettre la caméra et l'image. Et toute la journée, en fait, on est ensemble et on parle, on discute, on échange nos travaux en cours. On demande l'avis des autres et puis on aimait aussi souvent l'idée, ce serait pas mal des fois de bosser ensemble. Et puis là c'était la concrétisation de ça. Alors une partie de l'atelier virtuel, hein, parce qu'on est une quinzaine en tout, mais en tout cas les membres, c'est marrant parce que c'est en grande partie avec les membres originaux, en fait, fondateurs de cet atelier virtuel. Donc ça faisait sens quoi, et c'était relativement cohérent. Et puis il se trouvait qu'en plus, moi j'étais le dernier à devoir accepter. Parce que on avait potentiellement un projet chez Lombard qui aurait pu aboutir, puis finalement qui est capoté. Et moi j'ai dit allez, c'est bon, on part sur l'aventure quoi.
Le truc c'est deux dessinateurs.
Effectivement là c'est présenté comme deux dessinateurs, mais en vrai c'est beaucoup plus hiérarchique que ça. Brice Cossu, lui, il fait le storyboard et le crayonné, et moi je suis encreur en fait.
Mais vu qu'à l'ancrage il apporte aussi une part de sa touche, de sa touche.
C'est pour ça qu'on reconnaît pas forcément votre
exactement. Trait. Exactement.
Parce que c'est ce que j'ai dit à mon vieil ami Pinceau. Mais monsieur Pinceau, je ne reconnais pas. Déjà, il n'y a pas de chevaux.
Non, il n'y a pas de chevaux.
Il y a un chevalier.
Il y a un chevalier sans cheval, mais il a trouvé bien mieux.
Et il y a un éléphant. Il y a quand même un éléphant. Ouais. On le voit de face, un peu comme vous aimez bien les dessiner, les bestioles.
Il n'y a pas de chevaux pour l'instant.
De la case. Mais je lui dis. Exact. Vous renfliez un petit peu dans
scoop,
le train.
Scoop, scoop. Il y aura un cheval.
Il y aura des chevaux.
Alors,
des chevaux.
Sans spoiler quoi que ce soit, ils sont sur une autre planète. Il y a aussi la faune de cette planète. Donc, on va avoir aussi un aperçu de la faune.
On envoie un cheval normalement.
On va voir un cheval.
Non, ils ne sont pas à cheval quand ils rentrent à la Newton.
Si.
Si, oui, si, il y a. Si.
Donc,
il y a
je suis en train de le dessiner, donc si.
Non, mais je parle dans le premier.
Ah oui, non, pas dans le premier, mais dans le deuxième.
Oui. Dans le deuxième, oui.
Et ça me fait penser au niveau du scénario. C'est les vieux
coups, ça. Ouais. Non, mais je suis
tout le temps.
Ça me fait penser au niveau du scénario. Je disais à Monsieur Pinceau comment un vieux bouquin de SF de Philippe José Farmer qui s'appelait Le Monde du Fleuve, où les gens, quand ils mouraient, pouf, se retrouvaient le long d'un fleuve. Et il y avait comme ça des gens de différentes époques qui se retrouvaient, qui étaient.
On me l'a déjà dit.
Ouais,
et c'est absolument pas. Je ne connaissais
pas. Je ne veux pas dire que vous êtes.
Non, mais c'est ça.
Oui, c'est ça qui m'allait.
C'est quand même différent. Votre monde, il est différent. C'est pas quand on est mort, on est pris. Apparemment, on est pris au hasard.
L'idée de départ et l'idée qui est géniale, c'est ces
gens d'époque différente.
Les orages temporels.
C'est ça. C'est les orages temporels.
Alors, les orages temporels qui ont une. Alors, attention, je suis pas un physicien. Donc, c'est de la science de la Hollywood. Hein. C'est les canons ioniques chargés à bloc. Voilà. Mais ça, quand même, ça. C'est-à-dire que dans ce que j'ai créé, ça a sa logique. Qu'on connaîtra un jour. Mais disons qu'il y a une vraie logique. Il y a pourquoi c'est pris au hasard, pourquoi à tel endroit. Au tome 6, on sait tout. Mais il faut aller au tome 6. Voilà.
Mais en tout cas, d'où est venue cette idée-là?
Ah elle est venue de la contrainte. C'est-à-dire qu'elle est venue de la contrainte de Bard. On aimerait bien pouvoir faire des véhicules avec des bouts venant de plein d'époques différentes. Et moi, les véhicules, comme je disais, ça ne m'intéresse pas. Par contre, des gens qui viennent d'époques différentes, ça m'intéresse. Donc là, il fallait que je justifie ça. Et donc j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui pourrait justifier? Qu'est-ce qui pourrait amener des gens à se retrouver au même endroit? De différentes planètes, de différentes époques. Et il fallait que je trouve aussi des garde-fous, parce qu'il fallait pas non plus qu'on se retrouve avec des dinosaures, avec des trucs. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui cadre ça. Et après, une fois que j'ai trouvé mon explication, je l'ai soumise déjà. Ils m'ont dit d'accord, ça paraît logique. Parce que sinon, on fait Lost, hein, la série Lost. Hein, c'est-à-dire, on a mis des ours, on a mis des machins, mais en fait, on sait pas trop où on va. Maintenant, moi, je sais où je vais. Je sais parfaitement où je vais. Et mon histoire tient la route, puisque je l'ai fait valider par l'équipe en entier. Elle tient la route. D'un point de vue scientifique, peut-être pas, mais en tout cas, d'un point de vue, elle se tient en elle-même. C'est-à-dire que dans son cadre, elle se tient.
En tout cas, pour le lecteur, c'est intéressant parce que moi, je vous dis, j'ai retrouvé le même côté excitant du monde du fleuve. Comment peuvent vivre en parfaite intelligence des gens qui viennent d'époques très différentes.
Ça fait comme des espèces de naufragés, pouf, qui se retrouvent tous là.
Parce que je prends.
Et là, il y a l'intérêt de.
Exactement. Et je prends le parti. Parce que j'en suis convaincu, je prends le parti qu'ils s'entendent. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui pourraient se dire, normalement, si on a un musulman, un chrétien de telle époque, ils vont s'entretuer. Je ne pense pas. Je suis convaincu déjà, parce que déjà, on idéalise de manière très violente le Moyen-Âge ou d'autres périodes en pensant qu'aujourd'hui on est beaucoup plus policier qu'avant. Ce que je j'en doute fortement, et je dirais même l'inverse.
Nous prouve pas vraiment,
l'actualité nous prouve
voilà.
le contraire. Et en plus, une fois perdu tout repère, parce que, comme me disait fort justement quelqu'un il n'y a pas si longtemps, ce sont les sociétés qui sont volantes, pas forcément l'homme. Or là, ils sont seuls quand ils arrivent.
Oui, ils sont isolés.
Ils sont isolés et ils ont besoin de survivre. Et, ils ont besoin, et surtout, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie de compagnie. On ne veut pas être seul. Et donc... Alors, ils apprennent l'anglais, parce que justement, à un moment, on parle comme quoi, quand ils arrivent, ils n'ont pas la langue, ils parlent pas la langue, donc ils sont obligés d'apprendre l'anglais. Ils ont pris l'anglais parce que ça reste la langue la plus facile à apprendre pour tous. Ça, on verra un peu plus tard, même des petits cours où ceux qui ont du plus de mal à suivre et justement plus de mal à s'y mettre. Mais le langage est important, donc il faut qu'ils aient ce langage commun. Et puis surtout, ils prennent un peu ce qui fait le plus plaisir. Donc, c'est souvent les restes de notre société à nous, c'est elle qui a laissé plus de traces, plus d'engins, et ils se mettent dans ce cadre-là. Après, voilà, on n'est pas sans tension, parce que forcément, il y en a. Et moi, ce qui m'amusait, c'était de mettre... on met toujours les gens du 21e siècle, comme on se pense vraiment être le pinacle de la civilisation humaine. Bah là, preuve que selon les points de vue de la plupart des gens là-bas, non, pas du tout.
Et puis c'est vrai que vous les avez mis dans un monde qui a l'air très vide, hein, en fait. Et donc ils sont obligés aussi de collaborer les uns avec les autres. Parce qu'autrement, à part choper ce qui va arriver avec un autre orage temporel, le bout d'immeuble, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc.
Alors ils sont sur une partie de cette planète qu'ils ne connaissent pas vraiment, qui est assez désertique.
Ça fait comme une map dans un jeu vidéo. On voit qu'un tout petit bout.
Oui. Mais ils n'ont pas trop les moyens d'aller plus loin pour l'instant.
Tout à fait.
Sauf s'ils pouvaient voler, par exemple, ce serait pratique.
Exactement.
Ce serait pratique.
Exactement. Et puis, je n'en dis pas plus, mais la fin de l'album montre bien que l'inconnu va même venir à eux.
Et surtout
qu'il y a
d'autres pistes aussi, c'est que ils sont très centrés sur les orages temporels. Ils pensent pas trop à ce que la planète ou le lieu où ils sont a à leur offrir aussi.
Comment vous avez fait votre casting de personnages?
Ouais, j'ai fait...
Il y en a deux, trois qui ressortent.
Non, alors, j'ai fait la facilité, je dois avouer. Bohémond. Bon, bah, j'écris beaucoup sur le 12e siècle. Un chevalier. Je suis
En
plus, je savais qu'il allait
classe.
Plaire.
Ça, c'était pour faire plaisir à Rodin.
C'était pour faire à tout le monde, en fait.
Oui,
à moi déjà.
Quand Vincent a écrit l'histoire, j'étais pas encore dans l'équipe.
Oui, il était pas encore dedans.
Donc, Vincent, mais par contre, je reconnais.
Non, mais je me sens
Vincent...
à l'aise avec ce type de personnage-là, voilà. En fait. C'est une période que je connais bien.
Et Vincent écrit quand même le personnage le plus cool qu'il ait jamais écrit. Parce que ce chevalier qui écoute qui kiffe la pop et qui découle.
Qui cite du Eminem. D'ailleurs, on m'a dit que j'avais piqué. J'étais énervé quand il cite du Eminem à un personnage. Il y a dans le film de Michael Bay, Six Underground, il fait la même chose, le personnage principal.
Ah ouais.
Acheté vert.
Moi, il m'a fait penser à Star-Lord, je sais pas, je trouvais qu'il avait...
Il y a un petit côté pop. Bah, ça, c'est côté pop aussi, c'est le fait qu'il écoute la musique.
Le Walkman.
Voilà, par contre, c'est Brice qui a designé tous les personnages sur base des descriptifs posés par Vincent. Mm-hmm. Et moi, je sais que Bohémond, je l'aurais pas du tout designé comme ça, je l'aurais pas du tout posé comme ça. J'ai mes propres habitudes de dessin
et mes tares,
pareil.
Avec les chevaliers.
Et justement, Brice a posé quelque chose de plutôt original par rapport à ce que j'aurais posé, donc c'est très intéressant aussi.
Le côté un peu plus petit aussi, tassé, un peu Wolverine. Ouais.
Mais c'est un personnage qui ressort vraiment celui-là. Il est hyper attachant.
Il est facile. Enfin, il est facile parce que c'est la brute qu'on aime aimer, en fait. C'est le un peu, en plus il a un côté vivant. Ça me permettait aussi de montrer que il y a ceux qui se posent des questions, les why, ceux qui sont là, qui se disent mais pourquoi on est là, et ceux qui vivent le temps présent, qui se disent bah lui en plus il a dû découvrir plein de choses, les voitures, la douche, les machins, la musique. Lui limite bah je suis content, moi je suis bien mieux que dans mon époque. D'autres tentent de comprendre où ils sont, pourquoi. Et recueille d'ailleurs du mépris de certains autres. Mais voilà, c'était montré aussi qu'il y a plusieurs manières de réagir à ce genre d'actes. Ils sont quand même emmenés dans un endroit, pour quelqu'un qui croyait en Dieu au Moyen-Âge, qui n'avait jamais vu une certaine technologie, qui n'a jamais vu de film de récit de science-fiction. C'est quelque chose de...
C'est du mindfuck,
quoi. Voilà, donc se poser des questions, limite, c'est peut-être trop dangereux pour lui.
Bah, vous les montrez, ils ont des espèces d'ateliers où ils parlent ensemble.
Certains ne veulent pas. Mais oui, en effet, moi je trouvais ça cohérent que des scientifiques, des gens avec l'esprit scientifique, rationnel, se disent, mais il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on fait là? Moi, c'est la plupart des choses qui, des fois, m'énervent dans certains films, où ils n'ont pas le temps de développer ça, mais ils sont dans une situation complètement extraordinaire, et en fait, ils se concentrent juste sur le truc devant eux, alors qu'on dit, bah, attends, tu sais pas comment marche ce vaisseau-là, tu sais pas comment marche... Et j'avais envie de montrer que, bah, ils sont là, ils sont posés, et ils se posent des questions. Ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Et c'est plein d'hypothèses foireuses, c'est plein d'hypothèses pas forcément foireuses. Voilà, c'est ça aussi.
Et puis, un nouveau monde, c'est un joli champ de graphique, quoi. Enfin, je veux dire, on peut...
Il y avait plusieurs manières, parce que sans faire du Léo sur les mondes d'Aldébaran et autres, il fallait trouver d'autres choses. Donc, il y avait plusieurs axes. Il y avait la végétation, déjà, des animaux, dont certains designs ont été posés par Alexis. Et puis il y avait le ciel. J'avais assez tôt émis l'idée que de nuit, ils ne voient pas nos constellations, ni lune et tout, mais eux ils avaient par exemple une immense nébuleuse dans le ciel. Là, tout de suite, ça nous transporte en une image, ça transporte ailleurs, quoi. Et puis enfin, il y avait la couleur, et Johan justement a réfléchi là-dessus pour amener des teintes qui soient un peu étranges. En ça, Alexis l'avait redirigé en disant: Regarde des photos de Mars, ça ressemble à la Terre, mais c'est pas la Terre. Il y a quelque chose en plus. Comme l'atmosphère est moins épaisse que la Terre, et bien du coup, la lumière n'est pas la même. Et en fait, il a essayé de travailler avec ça, quoi.
Et on doit voir plus vite l'obscurité du ciel, en fait. Comme il n'y a pas d'atmosphère, pouf, ça nous plonge dans l'espace.
Alors là, pour le coup, ils sont obligés d'avoir une atmosphère, sinon ils auraient des petits soucis.
Ouais. Oui, mais par contre, voilà, une composition un peu différente.
Mais voilà,
et puis,
on a joué là-dessus. En fait, l'idée, c'est de jouer sur la. On pourrait croire que.
Oui, c'est
mais
ça.
En fait, non. Voilà.
J'ai envie de vous embêter. J'ai pas vu de cours d'eau.
C'est vrai. Pour le moment.
Pour le moment.
Parce que je me dis, comment ils boivent un coup, c'est peut-être parce que bon.
Non, mais en fait,
si de l'eau, il y en a, mais on n'a pas.
Dans la ville de Newton, on le voit un petit peu. Il y a une grande cascade, en fait, qui est sous le bateau échoué, sous le cargo.
Oui, j'ai pas fait gaffe.
En effet, comme on a choisi les verres pour le moment dans
un peu désertique, un peu savane.
Donc on voit pas. Mais par contre, dès le tome 2, ils sont dans une zone un petit peu plus montagneuse, notamment au début. Et là, j'ai commencé. Voilà, ils vont voir. Il y a
de l'eau.
Il y a de l'eau.
Alors il y a un concept aussi qui est assez intéressant, c'est l'idée du greedy.
Mais oui.
Ah, ça c'est aussi une sacrée idée, ça.
Vous pouvez nous j'avoue, j'en suis fier.
Alors je vous laisse la présenter.
Ah bah le
grand doigt à César, ce qui est.
Le greedy, c'est celui qu'on n'a jamais assez, c'est celui qui veut toujours toujours plus.
C'est un peu la source d'un conflit là.
C'est un peu la source d'un conflit parce qu'en fait c'est le greedy, c'est nous. Le greedy, c'est nous parce qu'on en a voulu toujours plus et on a ravagé la planète sur laquelle on vit. Sauf que là, nos personnages qui vivent à notre époque, on rencontre les gens qui ont vécu après, jusqu'au 24e siècle, et qui ont subi les conséquences de notre avarice et de notre soif de toujours en vouloir plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que je disais que souvent notre civilisation est marquée comme le pinacle de la civilisation humaine. Bah, nos descendants directs ne sont pas d'accord du tout. Et c'était cela où je trouvais intéressant, c'était qu'on s'attend à ce que on va se moquer des anciens nazis, on va se moquer des chevaliers qui étaient des barbares, on va se moquer. Non, le barbare en fait pour la plupart de l'humanité, c'est nous. Par notre inconséquence, par notre avidité, notre surconsommation, par le fait d'avoir perdu pied avec ce qu'était vraiment la réalité et la rationalité. Genre aujourd'hui, quand on entend des grands patrons d'entreprise réagir à un scientifique qui explique la vérité, ce qui explique scientifiquement, là, c'est chaud. Et on lui répond, mais nous, on vit dans la réalité. Mais non, vous avez rien compris, en fait. Et en fait, nos enfants, nos descendants vont le payer. Sauf que là, dans cet album, ils sont là pour le dire. Et donc, en fait, finalement, ceux qui sont le moins considérés dans cette société, c'est nous. Et pas le chevalier du Moyen-Âge, c'est l'occidental du 21e siècle. Parce que les gens qui sont là ont pour certains vécu les conséquences de nos choix ou de notre inconséquence.
Ou de leur inconséquence. Ouais.
Mmh. En fait, c'est un album très psychologique, finalement.
Oui, j'aime bien mettre là. En fait, moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est que par la SF, la science-fiction, par la SF, on peut amener des discussions qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Et c'est ça qui, moi, je trouvais ça. Enfin, sincèrement, Alexis, lui, il adore créer des véhicules. Moi, je m'en fous complètement. C'est cool, j'adore le design. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, pour écrire, moi, je leur dis, il est sur un véhicule.
Il faut un axe.
Moi, qu'est-ce qu'on raconte? Et ça m'a permis de mettre aussi mes leitmotifs, ce que j'ai envie de raconter, moi. Moi, quand on écrit des récits d'histoire, on essaie toujours de dire vous croyez que c'est des barbares, vous croyez qu'ils sont complètement ch'tarbés, vous croyez qu'ils veulent tuer leur adversaire tout le temps. Quand on s'intéresse un tout petit peu à l'histoire et qu'on ne s'appelle pas Eric Zemmour, on comprend qu'en fait, les peuples, ils se parlent entre eux, ils ont du commerce, ils voyagent, ils sont beaucoup plus ouverts sur le monde que ce qu'on a toujours pu croire, et on n'a pas attendu aujourd'hui pour être dans la mondialisation. Donc, penser qu'avant c'était fermé, qu'il n'y avait pas de contact, ça rien n'est plus débile.
C'était juste plus lent.
C'était plus lent.
C'est peut-être meilleur.
Mais justement, quand quelqu'un se permettait de se faire un voyage de 6 mois, c'était pas pour aller casser la gueule n'importe qui. Alors attention, je dis pas qu'il n'y a pas eu les croisades n'ont pas été sanguinaires, il y a toujours eu des accès de violence. Mais on en a toujours aussi aujourd'hui.
Mais c'est intéressant, les royaumes chrétiens installés.
Exactement. Mais s'ils ont pu fonctionner, c'est parce qu'aussi, à un moment, ils ont été soutenus par les musulmans eux-mêmes. Parce que sinon, ils étaient morts. Et la première croisade n'aurait jamais réussi si elle n'avait pas été ravitaillée par des émirs musulmans qui comptaient sur eux pour combattre leurs voisins qu'ils aimaient encore moins que les croisés, jusqu'à ce que les croisés finissent par les embêter.
Mais ils se fassent détester aussi par tout le monde une fois qu'ils sont installés.
Ah oui, mais s'ils ont tenu 150 ans,
quand même, ouais.
C'est parce qu'ils avaient des alliés aussi dans la région.
Ouais.
Sinon, ça aurait été impossible.
Alors il y a de l'action quand même.
Ouais. Ah oui.
Ah, c'est pas que des types qui réfléchissent.
Ah non, pas des types qui réfléchissent.
Il y a notamment une scène très impressionnante de baston pendant un de ces orages temporels. Ouais. Moi j'ai vu Mad Max là, j'ai vu Fury Road,
oui,
j'ai vu
la grande scène. On pouvait difficilement passer à côté, ouais. Surtout après ce qu'il a été capable de faire.
C'est un kiff quoi.
Ouais. Et en même temps il y avait cette représentation particulière de l'orage temporel. Il fallait trouver un truc quoi.
Alexis l'avait fixé assez rapidement moi j'avais pas trop comment le fixer. J'avais l'idée d'une tornade et c'est Alexis qui a fixé vraiment le design aussi bien visuel. Cette espèce de lumière noire, enfin c'est vraiment. D'ailleurs, il y a un dossier à la fin où il explique tout ça.
On voit c'est le côté comics bureau aussi, il faut que ça.
Oui,
quand même.
Oui, tout à fait.
Et c'est un peu le cahier des charges.
Et puis voilà, il fallait le pinacle de ce premier tome, il fallait quelque chose qui envoie du lourd, quoi.
D'ailleurs, dans le cahier des charges scénaristiques, j'ai un peu une exigence, mais ça, on avait discuté en amont. C'est toujours une créature par album, une créature et un orage temporel qui marque. Voilà, c'est un peu, parce qu'il faut pas oublier que c'est un peu aussi le héros aussi un peu de la série.
Et puis Alexis était parti à la base plutôt sur un orbe de lumière blanche comme ça. Et compte tenu de la réalité de ce que sont ces orages temporels, j'ai plutôt proposé cet orbe noir.
Réalité que vous saurez dans 6 tomes.
que je ne peux révéler maintenant. Pourquoi un orbe noir est représenté comme ça voilà. Ceux qui ont vu Interstellar pourront peut-être avoir une début de piste.
Oh oui, ça c'était bien prise de tête comme film.
Mais même pas.
Il n'y a pas assez de martiens pour vous. Pas assez de Stromba.
J'aime bien brouiller les choses.
Ouais, bah, c'est pas
il va falloir réécouter cette interview, il y a des trucs cachés qui nous échappent pour le moment.
En tout cas, c'est vous ouvrez pas mal de champs des possibles. C'est prévu en combien de tomes?
Alors, vraiment 6 tomes?
Comme je disais, ouais, en fait... Nous, on a pour l'instant chez Glénat.
Enfin, s'ils sont tous comme ça, moi
chez
je
Glénat,
suis.
On a signé 3 tomes. Chez Glénat, on a signé 3 tomes. Moi, j'avais le choix. C'était soit j'essayais de faire une fin qui pouvait contenter à peu près du monde en disant on peut éventuellement finir au 3e, soit j'allais au bout de mon idée, comme j'avais envie. Et c'est au 6e tome, on a toute la solution. Et j'ai pas eu envie de marchander. Donc Glénat, quand on m'a dit ah, t'es sûr, pas une... J'ai dit non. Moi, ce sera au 6e tome, il y a la fin. Bah, au 6e tome, il y a la résolution. Sachant que si moi j'aimerais bien pouvoir faire 3 autres tomes de plus qui expliqueraient les conséquences de cette révélation sur le groupe. Donc si on va au bout de ce qu'on veut vraiment faire, c'est 9 tomes. Et c'est 9 tomes où je sais où je vais. Je sais où je vais, je sais ce qui se passe. J'ai juste, en fait j'ai la rando, j'ai le point d'arrivée, mais je peux me permettre de faire un petit chemin de traverse pendant 10 pages, pendant voilà, développer tel personnage ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnages par exemple qui devaient durer moins longtemps, qui finalement bah, dans mon tête, parce que moi en gros j'ai déjà écrit les 3 premiers tomes et donc je sais déjà voilà. Et là on espère avancer pour pouvoir écrire 4, 5, 6 rapidement.
Sinon chez Comics Bureau c'est quoi dans combien de tomes en général des séries?
C'est pas mal de diptyques.
En fait ça n'a aucun rapport avec l'éditeur ou pas, c'est parce que c'est surtout Glénat qui va avaliser ça aussi. Et surtout c'est dans un contexte, c'est un peu ballsy, un peu audacieux hein, dans le contexte actuel, mais j'ai pas eu envie d'ergoter sur est-ce que tu peux moyen de terminer plus rapidement. Non, c'est soit en fait il n'y aura jamais la solution, et tant pis, bah moi j'aurais déjà bien des boules de pas l'avoir fini. Donc,
Et je dirais pas, vous avez pas peur de voir les gens de chez Glénat venir, tu vas nous dire la solution?
Non, il faudra me torturer.
J'ai un chien méchant.
Non, je... Pour l'instant, le livre marche bien, les libraires aiment. Ouais, il y a un écho qui est plutôt positif, donc il faut espérer que ça prenne. Même si bah, la situation n'est pas forcément toujours des plus roses actuellement dans le monde d'édition. Mais on a envie d'y croire tous, ouais. On s'amuse tous. Chacun met le meilleur qu'il a dans l'album, tous à tous les niveaux. Donc on a envie de continuer cette aventure, on s'amuse beaucoup. Y a un potentiel et on espère pouvoir amener au moins jusqu'au 6e tome, quitte à ce que les 3 autres tomes soient réduits en un ou pas. Mais les six, ouais, c'est incompressible.
Bah c'est vrai que c'est très efficace. Enfin, on rentre direct dans l'action, immédiat stress. Là, l'échouage du vaisseau de Paul, c'est hyper avec le pauvre malheureux qui est.
De Paul, oui.
De Paul, ouais. Paul.
Qui est en fait qui est la station spatiale internationale.
Avec le pauvre cadavre qui pendouille là comme ça. Non, c'est très efficace.
Ouais, parce que le passage est dangereux quand même. Hein.
Passage est dangereux. Sans séquelles, oui, tout à fait. Imagine if I had to give you my soul in a moment where my soul was asleep. For it happens sometimes through no fault of our own. It's just a momentary blip in the passing of time. It's not a sign that embers of passion are dying. My bones burn.
Qu'on aime bien aussi, c'est l'explication de la couverture. C'est toujours intéressant.
Ça, c'est toi qui connais, toi.
Ouais.
Ça, je m'en doute.
On a longtemps réfléchi, carburé nos, on a longtemps fait carburer nos cellules grises à tous pour trouver une idée qui tabasse.
En tout.
Hein? Ah, non mais
les cellules grises.
Ah, oui, oui. À la base, c'est Alexis, hein, c'est Alexis Santenac qui a posé le ref de départ. L'idée était quand même de montrer. Le sujet quand même de la série, en l'occurrence un orage temporel, dans cette idée il faut toujours aussi poser nos personnages en situation, donc là bah, il y avait lui dans son ref, tout était là quoi, et il fallait l'orage temporel au loin, impressionnant, et nos personnages principaux, donc Paul Bohémond et puis ces fameux guetteurs d'orage, donc pour le moment on n'en sait pas trop grand chose.
Très mystérieux, ouais. Pourquoi sont-ils habillés?
On va savoir un peu plus effectivement dans le deuxième cycle. Pourquoi ces capes rouges qui sont-ils?
Qui sont censés être là depuis le début?
Quelles sont leurs motivations? Pour le coup, on se réserve un petit peu de choses là-dessus. Donc il fallait un peu de mystère, il fallait un peu de questionnement. Et puis le personnage de Do, ça laisse toujours plein de questionnements aussi. Je pense que ça donne toujours envie d'ouvrir l'album pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est.
Moi je l'avais trouvé très mystérieux cette couverture.
Bah oui,
j'avais presque l'idée. L'impression que le personnage central faisait une incantation ou quelque chose comme ça.
Peu, oui, il y avait une idée aussi. C'est est-ce que ce sont eux qui sont.
Et puis le titre Bomb X.
Bomb X.
Titre de travail.
Bon, c'est un titre de travail à la base qui a beaucoup plu à Glénat, donc ils ont dit on va le garder, sauf que moi j'avais aucune idée de ce que ça pouvait bien vouloir dire. Donc j'ai dû trouver une explication qui liée au titre. Et en fait je l'ai trouvé, je l'ai expliqué au reste de l'équipe qui m'a dit bah ouais ça marche. Donc Bombix, on connaîtra le pourquoi du comment attaché.
Parce que pour le moment.
Dans le tome 6. Ah, j'aime bien le tome 6, moi. Le tome 6, il y a plein de trucs.
Un peu lâché le morceau avec cette histoire de.
Non, mais j'ai l'impression que le sixième tome, il se passe des trucs.
Alors, il se passe des trucs tout le long. C'est juste qu'on a les tenants et les aboutissants de tout ce qui va se passer dans cet tome-là, dans le 6.
Bah, il est très bien rythmé cet album parce qu'effectivement, la fin où on commence à découvrir un peu le reste de la map.
Ouais, si alors.
Mais non.
Si le cliffhanger, vous l'avez trouvé hard.
Non, je ne l'ai pas trouvé hard, je l'ai trouvé.
Eh bah, attendez,
ouais,
c'est le 3, il va faire.
Attendez, c'est le tome 3. Hein, c'est.
Ouh, ils sont bons, ils viennent. Ils sont bons dans leur
truc. Tome 3,
quand est-ce qu'ils viennent alors les autres tomes, du coup, j'ai envie de vous dire.
Eh bien, moi, je suis en train de travailler sur le tome 2. Hein, le tome 2.
Est déjà sur le 3.
Oui, tout à fait. Boris,
moi,
est en train
j'ai terminé
de travailler
les 3, les 3 premiers.
Ok.
Donc, ça avance bien, en fait.
On attend incessamment sous peu le feu vert de Glénat pour que Vincent puisse écrire les 4, 5 et 6. Et puis dès qu'ils sont écrits,
c'est
Boris
un fonctionnement en tuilage en fait.
Alors oui, c'est ça. Oui, après moi c'est surtout ça parce que le 4, 5, 6 en fait, après un cycle assez aventure, un peu guerrier aussi, vous vous en doutez vu la fin du premier, le deuxième sera plus thriller, complot, compréhension, donc
enquête.
Enquête. Mmh. Et donc là en fait, j'ai envie de le construire sur les 3 tomes d'un coup parce que je sais qu'il va falloir que je mette des indices joyeusement disséminés bien au bon endroit. Donc j'aimerais bien, de toute façon on signe par cycle et en gros l'idée ce serait vraiment que si j'ai tout, je peux tout écrire d'un coup pour que ce soit cadré.
Et Brice devrait lui enchaîner.
Ce qui fait qu'en fait, ça permet à toute l'équipe d'enchaîner dès qu'on a un moment. L'idée, ça serait vraiment au grand max d'avoir un tome tous les ans. oui, même ça. Voire même peut-être plus rapide sur une fin de cycle,
ouais.
Ou sur voilà, sur
tout à fait.
Ouais, c'est un montagnier, ouais. Et vous avez d'autres projets, peut-être des infidélités que vous allez vous faire les uns avec les autres.
Il y en a toujours, surtout de la part des scénaristes, hein, c'est normal d'ailleurs.
C'est moi l'infidèle en fait. Hein,
oui, c'est vrai que les scénaristes ont dit qu'ils ont des cœurs de diamant, vous confirmez Ronan?
C'est qu'on a besoin de gagner de l'argent. C'est sûr,
voilà. Mais non, parce
qu'ils ne sont pas derrière une table à dessin.
Ou des cœurs d'artichaut, je
sais pas. En fait, le scénariste gagne moins sur un album, que et puis il passe moins de temps en fait aussi que le dessinateur. Donc voilà. Donc évidemment, le nerf de la guerre pour le scénariste, c'est de travailler avec plusieurs personnes. Par contre, il y a un point commun, je pense, qui est fort, nous, là, dans tout le groupe, et puis que ce soit avec les auteurs avec qui Vincent travaille, ou même là, nous tous ensemble, ou nous, notre simple album, c'est qu'on essaie de faire corps, quoi. Et c'est un peu tous des copains, on se connaît tous. Donc, essayer de faire équipe et de travailler tous ensemble, et c'est ça qui est le plus important.
Parce que là, on a toute une série de projets ensemble avec Ronan, bien
oui.
sûr.
On a Tête de Chien chez Dargo, qui est notre shonen médiéval.
Ouais, notre shonen médiéval.
Et qui a Bombix. Alors, pour le moment, moi, je suis en train de travailler sur les deux, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, dans le futur, on a chez Lombard, on va avoir une série de fantasy qui s'appelle Daemon.
Dans la mythologie grecque.
Dans la mythologie grecque.
Avec un demi-dieu qu'on suit.
Puis on a toujours des idées.
Moi, en ce moment, j'ai des grosses envies de fantasy. Je lis Glenn Cook, La Compagnie Noire. Ça me donne plein d'idées.
J'aime bien ça.
Alors, il y a plein de gens, ils lisent un truc, ils ont envie de l'adapter. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je lis un truc. Je me dis, j'aimerais partir sur les mêmes pistes, les mêmes choses.
Avec les sorciers.
Comment je fais à ma façon. Parce qu'il y a des trucs un peu datés quand même. Les tapis volants, c'est un peu.
Ouais, je trouvais ça rigolo, moi.
Ouais, en fait, c'est un peu comme dans le Conan quand ils avaient parlé du chameau volant.
Oui.
Bon, on avait tout fait. On a dit, on va faire un mirage. Voilà, il y a des trucs. Il y a des trucs, ça passe plus, quoi. Mais voilà.
Non, mais ça, c'est tout est une capacité. Enfin, comment. N'importe quelle idée posée dans un roman peut être adaptée de manière
magnifique. Des fois, il y a des idées qui passent bien en roman. Puis une fois visuellement, là, ça...
Et si on fait boire le lecteur?
Même. Parce qu'il faut que je boive tout le temps. Imaginez, pendant les 12 tomes de Glenn Cook, ça s'appelle un coma, quoi.
Ouais, c'est clair.
La compagnie de
mais voilà.
Et bah, écoutez, en tout cas, on vous remercie.
Merci à vous d'avoir
passé donc un petit peu de temps avec nous.
Six albums.
On rappelle donc
au moins six albums.
Six albums ou rien.
Ouais. Sachant, oui, ah ben,
voilà,
c'est ça.
Voilà.
Non, tu signes.
Voilà. Voilà. Chez Comics Bureau, le top.
Alors, je promets une chose, la même qualité scénaristique et de dessin sur les six.
Même meilleur,
mieux en mieux, même sur.
C'est un point quand même. Voilà, c'est un point quand même. C'est la première fois qu'avec Brice on travaille ensemble. C'est-à-dire la première fois que je rentre sur le travail de Brice. Évidemment, au fur et à mesure des albums, on va apprendre à mieux travailler ensemble. Alors déjà, je trouve que le résultat, moi, me plaît énormément.
Graphiquement,
ça
va monter, et moi, au moins,
ce que je peux faire tout seul,
ça ne descendra pas.
Donc, surtout, c'est que d'album en album, on kiffe de plus en plus. Donc, ça peut que se ressentir sur les choses.
Moi, je leur mets des petits défis. Je fais là, si je te fais un gros truc bien.
Ouais, j'ai remarqué.
Est-ce que
ça.
Si je te mets une foule de 10 000 personnes, bien tu les dessines. Alors, Brice, il se met à tous les dessiner. Ouais, donc, moi, j'ai pas le choix derrière de les ancrer.
En tout cas, ça bastonne. Même les méchants font pas de vieux os. J'ai vu ça. Là, il y en a un. Pouf, pouf. Allez, terminé. Au revoir.
Ouais. Tu sens qu'il peut, effectivement, il peut y avoir du body count, même sur les gens qu'on aime bien.
Ouais. Et bien, rendez-vous dès le tome 2 puis le tome 3.
Ah, mon dieu!
Parce que ça, on sait. Le booty count, on le connaît déjà sur celle-là.
Ouais.
Et bien, on vous remercie encore une fois.
Merci à vous.
Merci on rappelle à vous. Bombix.
Bravo, belle réussite.
Reggie Crazy.
Renan Toulouat et de Vincent Bruguias s'est achevé sur Morrissey, The Last of the Famous International Playboys. Je dédicace ce titre à mon ami Roger, hélas covidé, c'est pour ça qu'il n'était pas avec moi pour cette émission. Vous avez donc pu entendre cette interview réalisée à Quai des Bulles. Renan Toulouat, Vincent Bruguias, venu nous présenter les aventures de Bombe X, le tome 1, La Terre en question. Paul et ses malheureux compagnons exilés essayent de comprendre où ils sont bien plus tombés. Très bientôt, j'espère, à l'année prochaine, en fait, en 2024, avec plein d'autres chroniques, plein d'autres musiques et plein d'autres super rencontres, j'espère. Merci à vous, merci de votre fidélité, à la semaine prochaine, bonne lecture, tant qu'on a le droit. Et reviens-nous Roger, c'est pas pareil sans toi.